Alors, pour l'enregistreur, donc c'est la soirée du Kinaltum du 2 février 2019. Je crois que c'est la cinquième fois qu'on se rencontre. Alors, une chose que j'avais dit l'année dernière qui était intéressante, c'est qu'on avait travaillé, peut-être vous rappeler, sur la sagesse théologique l'année dernière. Et j'avais dit les dogmes, donc notre foi en général, elle a quatre sources. Est-ce que par hasard, quelqu'un se rappelle des quatre sources? C'est une bonne introduction à du Kinaltum. Toi, Baptiste, il faudrait t'en rappeler. Bon, je les redonne. Quelles sont les quatre sources des dogmes, ou les quatre sources de notre foi? Sur quoi s'appuie notre foi? Et les dogmes d'église,
et les écritures, la tradition.
Ah, bravo. Écriture, tradition ou magistère. T'as oublié le premier, le plus simple?
Sur la révélation.
Alors ça, c'est écriture et tradition. Non, le premier, c'est la philo, justement.
Ah oui. Ouais.
Première source, la philosophie réaliste. Deuxième source, effectivement, l'écriture sainte. Troisième source, le magistère, la tradition de l'Église. Et puis, quatrième, je vous avais dit, l'expérience des saints. Hein, l'expérience vécue, des mystiques, des saints, même de nous, d'ailleurs. Donc, l'expérience du peuple de Dieu, c'est les quatre sources à laquelle on essaie de se nourrir. Donc, c'est vrai que le groupe, il est un peu plus philo, en fait, un peu plus de philo que de théologie. Mais il y a toujours un peu des autres sources qui sont présentes. Voilà. Alors, on attaque. Je fais une connexion avec la dernière séance. Le but de la dernière séance, c'était de vous donner un choc au sujet de l'existence de Dieu. C'était vraiment le but. On a parlé d'autres choses sur lesquelles je ne reviens pas. Mais le but principal, c'était ça. Alors, vous allez peut-être vous rappeler, on a parlé de la preuve de l'existence de Dieu par la Ferrari. Quelqu'un s'en souvient ? Ouais, non ?
J'ai des souvenirs.
La Ferrari sur la Lune, ça vous rappelle quelque chose ?
Oui.
Après, il y avait la preuve par la tasse à café. Celle-là, elle vous avait bien plu, la tasse à café. Moi, je me rappelle, c'est ça, vous avez plu. Après, il y avait la preuve par le grain de sable. Je ne reprends pas tout ça, vous réécoutez la séance d'avant, hein, mais c'était les trois preuves, entre guillemets. Le but, c'était de vous donner un peu un choc et de vous faire... vous percutiez un peu sur l'existence de Dieu. Donc ça, je peux pas.
Ah oui, c'était par rapport au hasard, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était toute la réflexion sur le
hasard. Ils ont été partis loin sur la.
On est parti assez loin sur la mécanique quantique.
La mécanique,
ça, bon, bref. Mais on a quand même réussi à. Non, mais à réécouter, c'était pas mal en fait.
Ouais,
mais je reconnais qu'à un moment, c'était un petit peu perché. Puis après,
en vrai, il avait poussé loin la réflexion, ouais, mais ça restait intéressant.
Mais si vous réécoutez, vous verrez, c'est pas si mal en fait. C'était relativement cohérent. Voilà. Alors, je vous résume les conclusions auxquelles on était aboutis la dernière fois. Il y en a une, Saint-Baptiste, il devrait se souvenir. L'être contingent implique un être nécessaire. Qu'est-ce qui se rappelle de ça?
Ah oui, c'est Aristote.
Aristote, qu'est-ce qui peut expliquer ce que ça veut dire? Pour les nouveaux, là. L'être contingent implique un être nécessaire. Allez, vas-y, un peu plus régulière.
S'il y a quelque chose qui peut ne pas être, alors il y a forcément quelque chose qui le maintient dans l'existence.
Voilà.
Et qui, lui, il est sans condition.
Voilà, toutes les choses qu'on voit, elles existent parce qu'il y a un existant fondamental. Qui existe nécessairement, on va dire. Enfin, je ne peux pas reprendre, hein, ceux qui s'intéressent, vous l'écouterez. On a fait une distinction très importante entre l'essence et l'existence. Ça, c'est un peu technique, mais c'est une notion importante. Quelqu'un s'en souvient? Essence, existence. C'est au propos du grain de sable. Non? Bon, je vous dis. Alors, on va le reprendre ce soir, donc je reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, l'essence d'une chose, c'est ce qu'elle est. Par exemple, Gabriel, il est Gabriel.
D'où elle vient?
Il y a un coussin, une chaise, une table, une voiture, tout ça, c'est l'essence des choses, c'est ce que sont les choses. Puis il y a une autre notion qui est complètement différente, c'est le fait qu'elles sont posées dans le réel, c'est qu'elles existent, elles sont réellement devant nous. Donc c'est en philosophie une distinction importante entre l'essence d'une chose, ce qu'elle est, puis l'existence d'une chose, c'est-à-dire le fait qu'elle existe, qu'elle est posée en dehors du lien. Et on avait fait le lien avec Dieu, qui est le subsistant, qui est celui qui existe et qui donne être, qui est la racine de l'existence de toute chose. Ça vous rappelle quelque chose? L'essence-existence. On avait même dit, on le reprendra ce soir, que la définition de Dieu, c'est d'exister. Son essence, c'est son existence. C'est un petit peu technique, mais c'est intéressant. La définition de Dieu, c'est qu'il existe.
Parce qu'il n'y a rien avant lui.
Il n'y a rien avant lui, puis il n'y a rien en dehors de lui, en quelque sorte. Il est, quoi. Si tu regardes une bouteille, derrière, il y a l'existence de Dieu. Derrière cette voiture, il y a l'existence de Dieu. Derrière toi, il y a l'existence de Dieu. Derrière toute chose, il y a Dieu présent. Sinon, il n'y aurait rien. Tout s'évanouirait dans le néant. Je peux pas refaire toute la séance de l'autre fois. Hein. Je vais vous rappeler un petit peu. Non, ça va. Alors, Juliette et Émilie, tout ça, ça va un peu vite. Je vais reprendre un peu.
Et Jean-Nicolas,
pardon. Ça va un peu vite. Vous inquiétez pas, vous allez rentrer progressivement dans la réflexion. Hein, parce que je peux pas refaire les sens d'avant. Et puis on avait aussi dit que Dieu est acte pur. Ça peut-être vous en rappeler, mais ça, je ne l'ai pas expliqué. Donc ça, ce serait une des choses que je vais expliquer ce soir. Voilà, en gros, ce qu'on a fait la dernière fois.
Mais l'acte pur, c'est pas justement le nom que Aristote donne à Dieu ?
Si, c'est la définition de Dieu par Aristote, l'acte pur. Mais je vais expliquer un peu ce soir pourquoi il l'a appelé comme ça. Ouais. J'ai conscience que je dois quand même pas mal larguer ceux qui sont jamais venus, mais pour les autres, ouais, ça va aller, ça va venir peu
à peu. À chaque séance, on fait des choses nouvelles, donc
ouais,
c'est pas comme si on est... Fin... On a un plan qu'on découvre chaque fois.
Oui, mais en même temps, je fais attention à reprendre un peu les notions et puis à les représenter sous une autre forme pour que les niveaux ne soient pas trop perdus. Donc, ça va pour tout le monde à peu près ? Oui, c'est bon ? On avance ? Alors, je vous avais promis de vous présenter rapidement les différentes parties de la philosophie. Ça, je propose de le faire rapidement maintenant. Et puis après, ben, on va attaquer la suite. Est-ce que je le fais ? Il est déjà 8h30. Ouais, si, je pense que c'est bien quand même. Alors, les grandes parties de la philosophie, ça c'est bien que vous le notiez, peut-être si vous ne savez pas ça. La première partie de la philosophie, c'est ce qu'on appelle la logique. Donc la logique, c'est d'apprendre à penser. Et Aristote, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Organon, fait une série de bouquins qui s'appelle L'Organon, qui apprend à penser. Et en fait, toute la science moderne, ça rejoint une discussion qu'on avait avec Baptiste l'année dernière, toute la science moderne, tous les scientifiques d'aujourd'hui, en fait, ils pensent selon ce schéma, parce qu'on ne peut pas penser autrement. Mais c'est Aristote, en fait, qui a posé les bases de la logique. Je ne vais pas vous faire de la logique, hein, je vous rassure, c'était juste pour vous dire que ça existe. Ce qui est intéressant dans la logique, c'est l'origine des idées, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est qu'un concept, quand on réfléchit, qu'est-ce qui se passe dans notre intelligence, quel est le rapport entre nos idées puis le réel. Tout ça, ça fait partie de la logique chez Aristote. Ça, on fera un petit peu, on en a déjà fait, on en fera un petit peu au fur et à mesure des séances, mais je ne vais pas faire une séance dédiée à ça parce que c'est trop compliqué et puis ça, je ne pense pas que ça vous intéresserait. Deuxième partie, alors, qui est tout à fait passionnante, c'est ce qu'on appelle la philosophie de la nature. Ça, on a à peine commencé. Ça consiste à déjà réfléchir sur les objets inanimés, sur le monde qui nous entoure, tout simplement, et puis sur le mystère du vivant. Et là, on va avoir des séances, pas ce soir, on n'aura pas le temps, mais plus tard, on aura des séances qui sont vraiment géniales sur ce mystère du vivant. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que la sensibilité ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Enfin, il y a des trucs vraiment magnifiques à dire là-dessus, à observer. Donc, c'est ce qu'on appelle la philosophie de la nature, ou ouais, à la fois de l'inanimé et de l'animé. Après, il y a le sujet spécifique, donc troisième grand thème de la philosophie, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, l'anthropologie. Pour être plus simple, c'est la philosophie de l'homme. L'anthropos, c'est l'homme. Bon. L'anthropologie, c'est la philosophie de l'homme. Et là, on découvre en philosophie que l'âme a une âme immortelle, la puissance de l'intelligence, la puissance de la volonté, la capacité d'aimer, enfin, tout ce qui fait qu'un homme est un homme, ou une femme. Bon. Donc ça, c'est la philosophie de l'homme. Donc là, j'ai vraiment l'intention de passer du temps là-dessus. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et puis le dernier point, en fait on a un peu commencé par là, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire réfléchir à la fois au monde réel. Par exemple, l'essence et l'existence, ça c'est vraiment une notion de métaphysique. Faire cette distinction, c'est une notion de métaphysique, donc c'est de réfléchir à la réalité qui nous entoure. Et puis Dieu, tout ce qui est Dieu, l'existence de Dieu, Dieu créateur, tous les attributs qu'on peut découvrir par l'intelligence concernant Dieu, ça s'appelle la métaphysique. Voilà. Donc le programme il est immense, il est passionnant, il est. Enfin moi je... Ouais. Enfin voilà. Donc, on fera ce qu'on peut dans tout ça. Donc je résume la logique, la philosophie de la nature, l'anthropologie et la métaphysique. D'accord, ça vous donne un petit schéma. Alors on n'arrivera jamais à tout faire, hein, mais on picore à droite et à gauche et puis on essaie de construire quelque chose. Ça va pour tout le monde ?
Est-ce que tu classes la philosophie entre par exemple l'action, etc.
Alors,
l'action morale, etc.
Alors, pardon, très important. Oui, je suis complètement à côté de mes pompes là. L'ensemble de ce que je viens de dire, tout à fait, l'ensemble de ce que je viens de dire, les quatre sujets que je viens de citer, ça s'appelle la philosophie spéculative. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de la réflexion dont le but est la connaissance. Finalement, le but de ces quatre thèmes, c'est de connaître, c'est de comprendre. On a envie de connaître, de comprendre, de réfléchir, de s'émerveiller. Le but, finalement, c'est de l'émerveillement devant la réalité. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la philosophie spéculative, c'est-à-dire qu'on réfléchit. Et puis, il y a tout un autre champ, heureusement que tu poses la question, que j'ai oublié, qui est la philosophie morale ou pratique, qui est la réflexion de la philosophie sur l'action. Donc, c'est tout ce qui concerne la morale, tout ce qui concerne l'action. Et puis, l'art aussi, ce qu'on appelle l'art, c'est-à-dire comment l'homme transforme le monde. Tout ça, ça fait partie d'un second paquet, d'un second secteur de la philosophie, qui est la philosophie pratique, on pourrait dire, hein, de l'action, philosophie de l'action. Effectivement, ça c'est super important, notamment la morale. Hein, aujourd'hui, il y a tous les débats sur la bioéthique, sur est-ce qu'il faut bricoler les gènes, est-ce qu'il faut fabriquer un surhomme, enfin tous ces sujets. Là, ça relève de la philosophie morale. Et pour dire des choses un peu juste là-dedans, je pense qu'il faut commencer par la philosophie spéculative. Par exemple, si on veut parler des actes humains, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un homme. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous construire quelque chose. Et puis, on tâchera de faire aussi un peu de philosophie morale, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, bref. Vous comprenez ce que je raconte, ça va?
Oui, c'est bien.
Oui, c'est à peu près.
Tu peux continuer.
Anne, tu m'interromps aussi. Parce que d'habitude, on prépare un peu avec Anne, puis là, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai fait mon truc dans mon coin, donc elle a pris un bleuement de casser toute la baraque, si c'est incompréhensible comme ça. Donc, vous n'hésitez pas, vous aussi, si vous comprenez rien, vous le dites, parce que je ne veux pas faire un cours. Alors, je voudrais faire un deuxième point, enfin, un premier vrai point pour ce soir. Je l'ai appelé « Face au réel, le fonctionnement de notre intelligence ». Pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais qu'on revienne, je vous dirai pourquoi, sur l'existence de Dieu et surtout sur ce qu'on peut apprendre de Dieu en regardant la réalité qui nous entoure. Et je voulais déjà faire une petite réflexion avec vous sur comment notre intelligence fonctionne face au réel. Et il y a une première chose que je voudrais vous faire réaliser, que vous n'avez peut-être jamais réalisé, c'est que... c'est difficile à transmettre. En philo, en général, les choses sont très simples, mais ce qui est dur, c'est de les voir. Hein. Parfois, j'emploie des mots compliqués. Oui, vas-y.
Est-ce que tu peux répéter le titre?
Oui, le titre de ce premier point, c'est « Face au réel, le fonctionnement de l'intelligence ». Comment on réagit, comment on se comporte face au réel. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est simple, et en même temps, il faut arriver à le voir. Souvent en philo, on appelle ça l'expérience totale. C'est le fait que chacun d'entre nous, on a une capacité qui est ahurissante, c'est qu'on est... Enfin, on est face à la réalité, face à une personne, face à les uns les autres, et sous tapis, face à la maison, bon. Et on est à la fois immergé dans cette réalité, disons je suis dans cette pièce, je fais partie de cette pièce, je suis dedans, et en même temps, je suis complètement autonome par rapport à ce que j'observe. C'est-à-dire que je suis moi, comme observateur, face à la réalité. Et j'ai la capacité, avec mon intelligence, d'analyser la réalité comme si j'en faisais pas partie. Et c'est une capacité qui est extraordinaire, simplement on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit tout le temps comme ça. Mais l'être humain, il a ce don, qui est spirituel en fait, hein, d'avoir du recul par rapport au réel, puis d'observer ce qui se passe. Je crois que je l'ai déjà dit, je vais vous donner une petite histoire, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça ne fait rien. Il y a 2-3 ans, je suis allé écouter une conférence d'Hubert Reeves. Quelqu'un connaît Hubert Reeves? C'est un astronome, très connu canadien. Ah, vous avez déjà dû voir, c'est un type avec une barbe blanche, un peu. Il est assez connu, non, ça me dit rien. Bon, il a écrit toute une série de bouquins passionnants sur l'astronomie. C'est un savant très renommé. Il est venu à Genève faire une conférence sur l'histoire de l'univers, sur la génération des éléments chimiques dans l'univers, enfin tous ces trucs-là. Et à un moment, il a dit « Je voudrais vous faire l'expérience la plus incroyable » qui existe dans l'univers. Je vais vous faire toucher du doigt ce qui est de plus incompréhensible et de plus extraordinaire dans l'univers. Alors, on a écouté, parce que c'est quand même un type très connu, quoi. Il parle d'Einstein comme moi, je parle de mon petit déjeuner, quoi. C'est un type vraiment brillant. Il nous a dit, je vais vous partager un truc que vous allez tous comprendre, et c'est le plus extraordinaire qu'on puisse expérimenter sur Terre. Alors, on écoute. il a dit, c'était marrant parce que c'était vraiment une conférence scientifique, il nous a dit, je vais vous fermer les yeux. Alors ça fait vraiment bizarre parce qu'on est, enfin moi je suis pas un vrai scientifique, mais on était quand même tous des gens, des physiciens, des amateurs, enfin des voilà. Alors bon, on l'a fait, on a fermé les yeux, puis il a dit, dites-vous, je suis. C'était impressionnant, c'était un physicien qui nous a fait faire ça. Il dit, dites-vous, je suis, j'existe. Alors on l'a fait quoi, hein, je suis, j'existe. Il a dit ça c'est incompréhensible, ça c'est pas normal qu'un homme puisse faire ça, qu'il puisse, parce que comment dire, une cruche, imagine demander une cruche qu'elle dise je suis, elle peut pas quoi, même un ordinateur il peut pas dire je suis, il peut pas s'observer, parce qu'il est une réalité peut pas s'observer elle-même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que j'essaie de dire, hein, c'est pas possible, c'est impossible, un ordinateur il pourra jamais s'observer. Un chien, il ne peut pas s'observer, il ne peut pas dire tiens, je suis un chien. Il vit, il réagit, il mange, il boit, il cherche une copine, mais il ne peut pas s'arrêter, se poser, puis dire tiens, je suis. Ça, on sent bien que ça ne marche pas. Et nous, on peut. Et alors, c'était marrant parce qu'il a dit ça, il a dit voilà, je ne peux pas l'expliquer, mais au fil des milliards d'années, les quarks, les protons, les électrons, les machins se sont assemblés pour produire ce phénomène qui est strictement incompréhensible. Un être humain qui dit je suis, tout le monde dit un observateur indépendant de la matière qui s'observe et qui observe le réel.
Et pourtant, il y avait un des animaux qui en conscience d'eux-mêmes.
Alors, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. C'est... vas-y, Cyril. Les animaux, ça, c'est typiquement. Là, on ouvre un champ, là, il faut deux heures pour répondre à ça. Donc, alors, ça fait partie de la
nature. Tu peux répéter la question ?
Les animaux ont conscience d'eux-mêmes. Ça fait partie du deuxième point que j'ai cité tout à l'heure, la philosophie de la nature, on traitera abondamment. Mais okay. Pas ce soir, sinon on n'y arrivera pas. Par contre, ça, c'est vraiment une question à noter, les animaux ont conscience d'eux-mêmes. Tu peux même mettre que c'est Étienne, comme ça, on sera plus grand.
Justement,
ça, c'est... je vous promets qu'on traitera, mais pas ce soir.
Okay. C'est peut-être parce que, justement, le fait de pouvoir dire « je suis » n'a aucun rapport avec la matière.
Eh bien, tu as de l'intuition, Gabriel. En fait, cet acte de dire « je suis » ou « j'observe », je suis face au réel », en fait, il y a quelque chose d'immatériel, c'est fondamentalement immatériel. C'est-à-dire qu'on se positionne en dehors de la réalité et on l'observe, puis on se la prend en pleine figure. Donc on appelle ça l'expérience totale. C'est-à-dire qu'un être humain, il reçoit tout. Les sensations, les sons, les couleurs, les êtres humains, les messages, tout. Il reçoit, puis il l'analyse, il enregistre, il en déduit des choses. Et alors, les animaux ont aussi une forme de conscience, mais qui est très différente. Donc, à traiter plus tard, hein, parce que sinon, on va encore diverger sur eux. Alors, notre intelligence, quand elle est face au réel, elle fonctionne avec un certain nombre de principes que seule la philosophie peut dégager et dont les scientifiques se servent tous les jours. Les trois principes.
Ah, identité, causalité, finalité.
Parfait. Identité, causalité, finalité. Hein. Alors, là aussi, il faudrait que vous écoutiez les anciennes séances, les nouveaux, mais je redis en deux mots. Ou tu essayes, quelqu'un essaye. Allez, identité. C'est quoi le principe d'identité ?
Bah, qu'on est, quoi. On est une entité, on est quelque chose.
Donc. Ouais, ou... Plus généralement, le principe d'identité dit la chose suivante. Une chose, elle est ce qu'elle est. Et elle n'est pas...
C'est l'essence, justement.
Ouais, une chose est ce qu'elle est et pas autre chose.
C'est, ouais. Et c'est l'essence et pas la...
Pas l'existence.
L'existence.
Ah, c'est un mélange des deux. Ouais. Bon. Donc, le principe d'identité, ça dit une chose, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas autre chose. Une chaise, c'est pas une voiture, quoi. C'est... Alors, ça a l'air idiot à dire, mais il y a énormément de philosophes qui sont contre ce principe.
Alors qu'on a dit que ces trois principes philosophiques, enfin, ils sont nés de la philosophie. Ouais, et ensuite, ils ont été réutilisés en science, c'est ça ?
Ah bah oui.
Et du coup,
un scientifique, quand il analyse un phénomène, je sais pas, n'importe quoi. Bon, moi, je sais pas, tu observes un atome de plomb, par exemple. Bah, tu pars du principe que l'atome, il est ce qu'il est. Puis tu peux passer une vie entière à essayer de comprendre comment il est. Mais tu peux passer une vie entière à l'étudier parce qu'il est ce qu'il est. Il va pas changer, il est ce qu'il est. Et en fait, vous en rendez pas compte, mais les 95% des philosophes qu'on vous enseigne à l'école sont contre ce principe fondamental. C'est-à-dire qu'ils renient ça, ils n'acceptent pas, mais je vous rappelle l'histoire de la table.
Oui.
Non, mais c'était ça. Ils n'acceptent pas que le réel est ce qu'il est. Par exemple, Jean-Paul Sartre, vous connaissez Jean-Paul Sartre ?
Oui.
Un petit peu, vaguement.
Oui.
C'est un des derniers grands philosophes du XXe siècle, je pense qu'il n'y en a plus guère depuis. Il a dit que la seule chose qui compte, c'est. Non. Mais pardon, non, je laisse tomber. Je laisse tomber ça, c'est trop long. Enfin bref, il est contre ce principe.
Causalité.
Voilà, donc causalité. Alors, identité, donc les choses sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas autre chose. Ça, c'est vraiment très important. Deuxième principe, causalité. Allez.
Il se base sur quoi pour...
pour appuyer cette thèse.
Pour appuyer cette thèse.
Qui, Sartre ?
Ouais, Sartre.
C'est simple, il ne part pas du réel. Donc ça, c'est ce que j'essaie de vous...
Il part de lui, non ?
Oui, j'essaie de... Je vous ai dit... Alors Kant, c'est un idéalisme complet, donc lui, c'est encore pire. Lui, il dit, on ne peut rien connaître de la réalité. C'est-à-dire qu'il nie toute connaissance du réel. Donc pour lui, l'idée qu'une chose est ce qu'elle est, ça n'a aucune importance, puisqu'on ne peut rien connaître. Donc pour Kant, la seule chose qu'on connaît, c'est nos idées. On n'a aucune connexion avec la réalité. Donc, enfin, ce que je vous expliquais déjà depuis l'année dernière, c'est que la vraie philo, elle part du réel. On observe le réel. Et bon, Descartes, par exemple, je n'ai pas le moment, il ne parle pas du réel, il parle de ses idées à lui. On en avait pas mal parlé, Kant, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle des idéalistes. Et donc, le principe d'identité chez eux, ça ne veut rien dire, puisqu'ils ne s'intéressent pas au réel, en tant que tel. Bref, causalité, quelqu'un se souvient ce que c'est la causalité ? Bon, c'est simple, l'effet, la cause précède l'effet. Toute chose est précédée de sa cause. Tout événement est précédé de sa cause.
Mais donc, la causalité a un rapport avec la finalité ? Bah,
oui,
parce que c'est
oui, on y arrive tout à fait. Alors, causalité, c'est-à-dire toute cause a un effet. Hein, alors là aussi, c'est vraiment une base en science. Le premier réflexe de la scientifique, c'est de se demander pourquoi une chose se produit. Hein, donc, c'est la causalité. Puis la finalité, bah, ça veut dire comprendre les choses, mais dans un schéma beaucoup plus large. Hein, la causalité, c'est de se rendre compte que tout ce qui se passe dans le monde est dans un enchaînement global. Par exemple, s'il y a un tapis ici, c'est parce que quelqu'un l'a tissé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la laine, c'est parce qu'il y a un mouton qui a fabriqué de la laine, et ce mouton, il y a une maman qui a une maman qui a une maman. Bref, en regardant ce tapis, on voit le Big Bang, quoi. Non, mais c'est vrai, si on réfléchit sérieusement, dans ce tapis, il y a le Big Bang. Il y a un enchaînement causal depuis le Big Bang.
Et pour tout, de toute façon.
Hein ?
Pour toute façon.
Ouais. Enfin, ouais, il y a un truc qui est rigolo, je ne sais pas si vous avez réalisé, l'eau que vous avez vu tout à l'heure. L'eau que vous avez bu à table.
C'est
bu
de l'eau,
doucement. Du cidre, en fait. C'est de l'eau, quoi. Ouais. Mais cette eau-là, c'est celle qu'ont bu les dinosaures.
C'est pas la même.
Si, c'est la même.
Non, mais c'est pas la même chose, c'est cette eau-là.
Oui, c'est cette eau-là. Les molécules que vous avez bu, là, c'est pas le même genre. Ces molécules-là sont celles qu'ont bu les dinosaures. Ces molécules-là, elles existent depuis, en grosso modo, 10 milliards d'années. Ces molécules-là, je ne suis pas en train de dire c'est l'eau en général. Ces molécules qui étaient dans votre verre, elles existent depuis au moins 10 milliards d'années. Vous pouvez être sûr qu'elles ont été bues par les dinosaures.
Elle s'évapore, elle va dans le ciel,
elle
pleut, on boit l'eau,
on ne fabrique plus d'eau sur Terre. Hein. L'eau, elle a été synthétisée au début de l'histoire de la Terre, je dis 10 milliards, j'ai déjà un peu, quoi qu'on ne sait pas. Au moins 5 milliards d'années, en tout cas. Donc c'est juste pour dire qu'on est tous pris dans des enchaînements causaux qui vont très très loin dans le temps, qui vont très loin dans le futur, et tout ça c'est finalisé, c'est-à-dire qu'on est pris dans un enchaînement global qui arrive à produire l'homme, qui arrive à produire les animaux. Donc la finalité c'est dire que l'ensemble des causes qui agissent dans le monde débouchent sur un univers harmonieux, enfin construit.
Alexis, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un endroit dans l'univers où il y a de la matière qui se crée toujours ? On n'est pas sûr que l'univers il a une quantité de matière qui est
définie.
Je ne sais pas si je réponds ou si on le met dans la liste. Ouais, mets-le dans la liste. Parce que... ouais, t'as en partie raison dans la mesure où la matière et l'énergie c'est la même chose. Mm-hmm. Ta création continue de matière et disparition continue de matière.
D'accord.
Mais. Bon, disons que c'est un phénomène marginal. Voilà. Oui, mais c'est un phénomène marginal. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, tu as effectivement apparition et désintégration de matière, mais c'est très marginal par rapport. Par exemple, tu prends l'eau, il y a des molécules d'eau qui disparaissent.
Oui.
Mais c'est extrêmement marginal par rapport à la masse d'eau qu'on observe.
Non, voilà.
Petit à petit.
Si on veut réfléchir à la finalité, c'est intéressant. Comment dire, la causalité, c'est pourquoi en un mot. Pourquoi en un mot, c'est-à-dire pourquoi telle chose s'est causée. J'ai sauté par la fenêtre, je me suis cassé la jambe. Pourquoi je me suis cassé la jambe ? Parce que j'ai sauté par la fenêtre. Donc c'est pourquoi en un mot. Puis la finalité, c'est pourquoi en deux mots. Dans quel but ? Pourquoi ? dans quel but, dans quel schéma global cet événement se situe. Et il y a au moins un pourquoi qui est global dans l'ensemble de l'univers, je vous avais dit, c'est la recherche de l'équilibre. Hein. Toute la nature est organisée en fonction d'un principe général qui est de consommer le minimum d'énergie. Autrement dit, la recherche d'équilibre. Par exemple, prenez une balance. Bon, là, il y a un gros poids, là, il y a un petit poids. Si vous mettez un gros poids ici, ben, ça va s'équilibrer. C'est parce que ça va chercher un état stable où l'énergie est minimum. Si vous mettez de l'eau chaude et de l'eau froide, ça va faire de l'eau tiède. Ça ne va pas rester froid et chaud. La nature recherche toujours un équilibre le plus stable possible avec le minimum d'énergie. Donc ça, c'est une finalité qui oriente la totalité des phénomènes physiques et ça se retrouve à tous les niveaux. Que ce soit en physique nucléaire, en mécanique, en chimie, toute la nature cherche constamment un équilibre avec le minimum d'énergie possible. Donc ça, déjà, c'est une finalité globale qui existe. Après, quand on regarde les vivants, il y a évidemment d'autres finalités. On voit bien qu'une herbe, elle a d'autres finalités que de minimiser l'énergie. Bref, tout ça pour dire que notre intelligence a besoin de... On se demande toujours dans quel but les choses se produisent, dans quel schéma global ça se produit. Donc, identité, causalité, finalité. Ça va ? C'est un peu vite fait, hein, parce qu'on a pas mal bossé dessus l'année dernière. Je saute. Alors, je voudrais vous introduire une nouvelle notion qui est fondamentale, dont je vais me servir dans la suite, puis toute l'année on s'en servira. C'est un autre outil... Alors ça va vous paraître un peu abstrait, mais très vite ce sera concret, dont se sert en permanence notre intelligence. On ne peut pas réfléchir au réel sans cet outil intellectuel. On en a déjà vu trois, les trois principes. Alors, nouvelle notion, je crois que j'en ai jamais parlé encore. En philosophie, c'est un tout petit peu technique, mais vous allez vite comprendre. Ça s'appelle l'acte et la puissance. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça ? Bon, alors ça, c'est vraiment clé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. L'acte et la puissance, c'est quoi ? Je prends un exemple très simple. Vous avez un pianiste qui sait jouer du piano. Bon. Il dort. Est-ce que c'est un pianiste ? La question pour vous.
Oui.
Il dort. Est-ce que c'est un pianiste ?
Oui.
Ouais ? Mais vous êtes sûr de ça ? Pourtant, il ne joue pas du piano.
Est-ce que c'est un pianiste en puissance ?
Voilà. C'est un pianiste en puissance. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer du piano, il a la capacité de jouer du piano, mais il n'est pas en acte en train de jouer du piano. Donc c'est un pianiste en puissance, c'est le terme technique qu'on emploie, ça veut dire qu'il est potentiellement, c'est un autre mot très très utile, il est potentiellement capable de jouer du piano, mais il n'est pas en train de jouer du piano. Et alors ce schéma, puissance et acte, il est absolument universel pour n'importe quelle réalité qui change. C'est-à-dire que la première chose qui nous frappe quand on observe le réel, c'est qu'il y a des choses, hein, il y a des fleurs, des Gabriel, des chaussures, des tapis, bon, des bonbons, un dessert qui nous attend, tout ça c'est ce qu'on observe. Et puis la deuxième chose qui nous frappe, c'est que tout change, tout bouge. Hein, je perds mes cheveux, Baptiste il se lève pour prendre un bonbon, bon, on respire, on écrit, enfin tout bouge, tout change. Hein, puis en plus on vieillit, les choses se dégradent, elles se construisent, tout change. Et notre intelligence, sans même s'en rendre compte, dès qu'elle observe un changement, elle résonne en puissance et acte. C'est-à-dire qu'elle dit, tiens, cette chose va devenir autre chose. Et c'est tellement vrai que si par exemple, vous avez une voiture qui avance dans la rue, puis tout d'un coup, elle devient un éléphant, ça vous pose un problème. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me posera un problème. Mais pourquoi ça vous pose un problème ? Pourquoi est-ce que ça fait bizarre pour l'intelligence qu'une voiture, tout d'un coup, devienne un éléphant ? C'est parce que c'est contradictoire avec puissance et acte. C'est-à-dire qu'une voiture, elle est en puissance, pas au sens de la voiture puissante, mais elle est en capacité d'aller plus loin, d'avancer comme une voiture, de progresser. Elle n'est pas en puissance à devenir un éléphant. Et vous le savez, votre intelligence, elle le sait. Donc tout ce qu'on observe dans la nature est toujours organisé par puissance et acte. Toujours.
Et
ça, c'est un principe complètement universel de notre intelligence. Mais vas-y.
Et chaque chose a besoin d'une autre chose pour avoir une puissance.
Tu sais que t'es doué. Non, mais sérieux. C'est le point suivant. Ce qu'il faut retenir dans puissance 7, il y a deux points à retenir. Le premier, je l'ai dit. Le deuxième, Gabriel vient de le dire. Le premier, mais c'est marrant, c'est du Aristote pur sucre, ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que... Alors, je dis la petite phrase technique. La première, je la prends d'Aristote. La deuxième, de Gabriel, parce que c'est la même. La première, c'est d'Aristote. Un être est en puissance A. C'est en puissance A. C'est du français. Hein, il est en puissance A ce qu'il va devenir. Un être, il est toujours en puissance à ce qu'il va devenir ou à ce qu'il va être. Le pianiste, il est en puissance à jouer du piano. Juliette est en puissance à devenir une grande, je sais pas quoi, une grande. Qu'est-ce que tu as envie de devenir, Juliette ?
Je sais pas.
Voilà, une c'est grande, bien. Je sais pas.
Voilà. Ouais. J'ai une question, parce que, par exemple, prends le cas d'une voiture, mais une voiture, elle prend le titre de voiture, on va dire, en puissance à partir du moment où elle roule. Mais si elle roule pas et qu'elle roulera jamais, pourtant c'est elle a le, je veux dire, elle a le, la conception d'une voiture.
Voiture qui,
c'est pas une voiture en puissance.
Tu prends une voiture qui roulera jamais.
Ouais.
Est-ce qu'elle pourrait rouler? Tu prends une bagnole, une Mercedes magnifique, construite, personne n'a jamais acheté, elle pourrait dans un garage.
Yes.
Est-ce que c'est une voiture? Est-ce qu'elle est en puissance à rouler?
Bah non, du coup.
Non.
Bah oui, mais.
Oui, mais elle passe pas en acte.
Ok.
Justement, mais c'est vous imaginez pas que c'est puissant ce truc-là. Parce que ça va nous amener directement à la définition de Dieu, cette histoire. C'est ça qui est assez incroyable. Mais déjà, il faut comprendre ça dans la vie quotidienne. Une bagnole qui est capable de rouler, elle est en puissance à rouler. Elle a le potentiel pour rouler. Et tant qu'elle ne roule pas, ben, elle n'est pas en acte. Elle ne pose pas l'acte de rouler, mais c'est toujours une voiture. C'est toujours une voiture. Simplement, elle n'actualise pas sa capacité de rouler. D'accord ? Donc première phrase, un être est en puissance à ce qu'il va devenir ou à ce qu'il va être. Et deuxième phrase de Gabriel, tu peux la redire, Gabriel?
Qu'est-ce que je dis déjà? pour que la chose soit en puissance, enfin, pour qu'elle puisse avoir une puissance.
Alors on pourrait dire ça autrement. Il faut toujours le terme technique, disons, c'est un agent ou un être, quelqu'un, pour passer de la puissance à l'acte. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un déclencheur, qu'il y ait un agent pour passer de la puissance à l'acte. Par exemple, une voiture, bah, pour qu'elle roule, il faut que quelqu'un la démarre. Quoi. S'il n'y a personne qui la démarre, elle ne va pas se mettre à rouler. C'est très très quotidien. Je prends ce stylo. Bon. Il est en puissance à quoi? Là, je le mets ici, à votre avis, il est en puissance à quoi, ce stylo? Il est en puissance à tomber. Je le lâche, il tombe. D'ailleurs, il y en a qui font de la physique. Ouais, vous faites un peu de physique, bah, c'est l'énergie. Mais l'énergie, pourquoi est-ce qu'il va tomber? Parce qu'il y a, du point de vue physique, ça se calcule, il a une énergie potentielle, et cette énergie potentielle fait que si je le lâche, il est en acte de tomber. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette notion d'énergie potentielle, ça vient d'Aristote. Pour ça, ça me fait rire quand on fait de l'opposition entre philo et science, parce que tout vient de la philo, en fait. Donc l'énergie potentielle, c'est ça, c'est l'acte et la puissance. Ce stylo, il a de l'énergie potentielle. Pour l'instant, il ne fait rien. Si je le lâche, il tombe. Il est en puissance à tomber. Ça va comme notion, donc puissance et acte. Super important. Question sur l'avortement. Un enfant qui est dans le sein de sa mère, c'est un homme ou pas?
Yes, it is.
En puissance, mais pas à l'acte.
C'est pas un homme en acte. C'est pas un homme en acte. Un homme en acte, il ne peut pas parler, discuter, jouer son rôle dans le monde.
Non, mais il vit.
Par contre, c'est un homme en puissance. Alors, disons un adulte. Disons un adulte. Est-ce que c'est un adulte?
Est-ce qu'il est déjà pleinement homme ou un truc?
Oui, bon, ça, on peut encore discuter, je suis d'accord. Mais si tu veux, est-ce que c'est un adulte ou est-ce que c'est un citoyen actif dans le monde? Tu vois, la réponse, non. Mais il est en puissance. C'est un homme dans le plein sens du terme, en puissance. Par contre, il n'est pas encore en acte. Mais seulement, il est en puissance, donc il a la même dignité. Tu prends un handicapé. Est-ce qu'il est capable de... Un handicapé mental, disons. Est-ce qu'il est capable de...
Vu que... comme on dit que Dieu, en fait, il nous connaît depuis toujours et qu'il nous a voulu depuis toujours, en fin de compte, je comprends pas qu'on puisse dire que le bébé il soit seulement encore en puissance. Je pense qu'il est en puissance quand il est dans le cœur de Dieu, mais c'est au moment de la conception qu'il devient homme en.
Oui, j'ai pas été acte, très clair. Disons qu'il est homme. Je suis d'accord. C'est un être humain en acte. Je suis d'accord. Le bébé, c'est déjà un être humain en acte. Je suis d'accord. Mais c'est pas encore, disons, un citoyen en acte. D'accord, c'est un citoyen en puissance. C'est pas encore un.
Non, mais en vrai,
c'est pas encore un.
Donc,
c'est pas encore du vélo, quoi. Tout ça, c'est en puissance, tu vois.
Ouais.
Tout son potentiel humain est en puissance. Tout ça, toutes ses capacités humaines sont en puissance. Intelligence n'est pas encore développée.
En fait, c'est ce qu'il y a dans sa nature.
Oui, voilà. Prenons l'intelligence. Le fœtus, il est intelligent en puissance, pas en acte. En acte, il ne réfléchit pas. Mais il est intelligent en puissance. Et donc, il a la même dignité qu'un être humain qui est intelligent en acte. Donc, c'est très, très important.
C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être en puissance dans le simple fait d'exister.
Ah non ?
Parce que la puissance a nécessairement un lien avec l'acte.
Ah, c'est directement lié à la nature de l'objet. Je te dis, une voiture, elle n'est pas en puissance à être un éléphant, elle est en puissance à avancer. Donc la puissance
est... Mais pas être une voiture, du coup. Elle est en puissance à avancer, pas être une voiture. C'est, parce que là, ça fait toute la différence avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est en puissance à devenir adulte et actif, et pas à être un bébé et un fœtus.
Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Le fœtus, il est en acte un être humain, mais il est en puissance à être intelligent, par exemple. Tu vois, hein. À poser l'acte d'intelligence.
Être heureux, en fait.
Hein ?
Il est plutôt en puissance à être heureux.
En puissance à être heureux, en puissance à aimer, en puissance à tout ce qui fait un être humain. Hein. Donc c'est alors Aristote, il parle de ça d'une manière. Alors je donne un autre exemple, la couleur. Mais j'insiste un peu parce qu'on s'en servira très souvent de cette notion. Vous êtes dans une pièce sombre. Bah, il y a ici, par exemple, on éteint toutes les lumières. Bon. J'éteins tout. Bien, ce tapis, alors m'intéresser ce soir, nous parlons du tapis. J'éteins la lumière. Est-ce que le tapis a des couleurs?
Là. En puissance, dans le noir, il a des couleurs.
Qu'est-ce qui fait qu'il va être en acte en couleur?
Bah parce qu'il y a le facteur.
Parce que j'allume. Si j'allume, il passe en acte. Si j'allume, il a des couleurs en acte. Si j'éteins, et même physiquement, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que si vous y réfléchissez, quand j'éteins la lumière, physiquement le tapis, il est réellement noir. Il a réellement pas de couleur. Parce que la couleur, c'est vraiment lié à la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Donc si j'éteins, ce tapis, il est noir, point. Mais ouais, il n'est pas que noir. Il est en puissance à être coloré.
Mais,
parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est très important.
Oui, mais seulement pour nous. Parce que par exemple, les animaux qui voient dans le noir, bon, alors, ils ne voient pas les couleurs. Ils voient en noir et blanc, mais il y a quand même deux contrastes. Alors que nous, dans le noir, on ne voit pas complètement
noir. Oui, alors, disons noir total. D'accord, ouais, noir total. Tu vois, ce que tu dis, c'est que tu peux avoir une lumière faible qui fait que certains animaux la perçoivent de pas nous. Mais disons noir absolu, total. Ah, okay. Tu es au fond d'une grotte à 1000 km. Bon, tu n'as pas un photon. Ouais. Ben, il est noir. Il est noir. Okay. Mais on ne peut pas dire qu'il est que noir. Il y a bien quelque chose dans son être. En acte, il est que noir. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il est... C'est vraiment inscrit dans sa nature qu'en puissance, il est en couleur. Parce que vous voyez le truc. Donc c'est très important cette histoire de puissance et d'acte. C'est vraiment vrai. Vous serez surpris comment on s'en servira souvent en philo. Alors qu'à la base, ils le sont tout simples. Ça va pour tout le monde, puissance et acte. C'est pas très compliqué en fait. Hein.
Et du coup, l'agent, c'est pas forcément un être humain en fait.
Non, la plupart du temps, c'est pas un être humain. Tu prends. Je sais pas, tu prends la pluie par exemple, hein. Un nuage, il est en puissance à produire de la pluie, à se condenser, à faire de l'eau, à faire de la pluie. Et l'agent extérieur qui va faire que le nuage devient la pluie, c'est le refroidissement du vent, la température, un phénomène thermodynamique qui fait que le nuage, en puissance à devenir de l'eau, va devenir de l'eau. Hein? Oui. Ok. Et alors, Aristote, qui était pas le dernier des malins, il s'est demandé si c'était de l'être ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le tapis est en couleur? Et il a dit, c'est pas du non-être, puisque, c'est pas de l'être en acte, mais c'est quand même de l'être, mais voilà. Alors, il y a certains textes où il dit c'est du non-être. C'est le tapis, il est coloré s'il est allumé. Donc, s'il est dans le noir, la couleur, c'est une sorte de non-être. Mais bon, le terme plus précis, c'est être en puissance. Oui, pardon, je diverge. Alors, parfois, on emploie le mot potentialité. Puissance ou potentialité, c'est la même chose. Le couleur, le tapis est potentiellement en couleur s'il est clair. Ça va, cette petite notion? Je me suis permis de poser ce vocabulaire parce qu'on s'en servira souvent en philo, donc c'était pas mal. Alors, ça nous amène à une notion extraordinaire. Extraordinaire. Dieu... est-ce qu'il est potentiellement capable de devenir quelque chose, d'après vous? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en Dieu, il y a la puissance à devenir quelque chose?
Parce que Dieu, il est dans tout le temps en même temps.
C'est la question. Est-ce que Dieu peut devenir quelque chose? Est-ce qu'il est capable de devenir quelque chose?
Il est tout à la fois et un seul chose.
Il est.
Il est immuable.
Alors, si vous avez senti ça, c'est qu'on a déjà fait un sacré boulot. Hein.
Il est.
Mais c'est extraordinaire que... Si vous avez compris ça, c'est déjà génial. Donc c'est pour ça, c'est tout ce qu'on observe dans la nature est en puissance. Il n'y a rien qui n'est pas en puissance. Si vous y réfléchissez, tout ce qu'on observe est en puissance.
Même nous.
Même nous,
c'est en puissance de Dieu.
Chacun de nous.
chacun de nous, on est en puissance à un milliard de trucs. Mais, je suis en puissance.
Non, non, plus en puissance que tout, parce qu'on ne cesse jamais d'être en puissance de nouvelles choses.
Et en fait,
c'est qu'on cesse d'être en puissance, il y a toujours de nouvelles situations. On peut être en, Gabriel, il peut être en puissance à être chanteur et être judoka en même temps.
Bah, bien sûr.
Ouais. Alors qu'une plante, elle est en puissance à devenir une plante toute sa vie, quoi.
Alors, on est. Alors, la puissance.
Non, mais.
La potentialité d'un être humain, elle est énorme par rapport à d'autres êtres. Hein. Chaque être est en puissance selon sa nature.
Moi, j'ai une petite question.
Ouais.
Est-ce que justement tout ce qu'on est, c'est pas la puissance de Dieu? Enfin, c'est ou bien on est l'acte de Dieu, on est la puissance ou l'acte de Dieu?
J'y arrive. Je vais en parler. J'y arrive, mais c'est des super questions. Ça, mais j'y arrive. Mais j'en reviens déjà à Dieu. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez déjà à peu près perçu l'idée fondamentale d'Aristote, c'est que Dieu. Il a aucune puissance en ce sens qu'il est tout. Il ne peut pas devenir quelque chose parce qu'il est parfait. Il est tout. Toute chose, il est au sens être, il est toute chose. Dieu, il est toute chose. Il est au fond de la table de Julien, de Gabriel, de mes chaussures. Il est au fond de toute chose.
Même de Jean-Nicolas.
Ouais. Il est au fond de toute chose. Hein, il est au fond de toute chose. Donc en fait, il est toute chose. C'est le subsistant. C'est celui qui est. Et donc en Dieu, il n'y a pas de potentialité. On dit ça en philosophie. En Dieu, il n'y a pas de potentialité. Mais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir quelque chose.
Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie, par exemple, d'une. Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, on est plus important qu'une table, je sais pas quoi.
Parce qu'on n'a pas la même nature. C'est-à-dire que notre nature n'est pas la même que celle d'une table. Et justement, notre potentialité, la puissance qu'on a, mais au sens de potentiel, il est infini par rapport à une table. Les capacités qu'on a comme être humain, elles sont infinies. Alors qu'une table, elle a une capacité très limitée. En gros, une table, elle peut juste devenir de la poussière, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre. Nous, on peut devenir tout, quasiment. Donc c'est parce que notre nature n'est pas la même. Ça, on en reparlera plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà pourquoi, donc je reviens à Dieu, Dieu n'a pas de potentialité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir quelque chose d'autre que ce qu'il est, parce qu'il est parfait, il est tout. C'est pour ça que Aristote a défini Dieu. Alors lui, je ne sais même pas s'il employait le mot Dieu d'ailleurs, parce qu'il n'était pas religieux, Aristote, c'est un philosophe, c'est un scientifique. Mais il a dit, il y a un être qui est l'acte pur. C'est-à-dire qu'il est, il est purement acte, il est totalement accompli. Quoi. Tout ce qu'il pourrait devenir, il l'est. On ne peut pas imaginer quelque chose que Dieu n'est pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est l'acte pur. Pour ça, j'employais ce terme la dernière fois. Il est totalement.
Mais du coup. En fait, c'est pas uniquement Dieu qui est que dans l'action, parce que en fait tout le monde de Dieu est dans tout le temps en même temps. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tous les saints extérieurs sont en même temps que Dieu dans tout le temps.
Alors,
ils sont en dehors du temps. Donc eux aussi, ils sont dans.
Non, le seul qui acte pur, c'est Dieu. Même les anges ne sont pas actes purs.
Ça veut dire qu'ils ont une potentialité.
Ouais. Ouais. Ah oui, puis énorme. Ils ont au moins une potentialité. Ça m'embarque dans un truc, mais. Si, je peux au moins vous dire ça, peut-être. Mais
Dieu soutient la création.
Oui, voilà, je ne veux pas être trop loin, mais au moins tout être qui existe, donc un ange, même si c'est un pur esprit, il n'est pas acte pur. Pourquoi? Parce qu'il reçoit son existence de Dieu. Donc il est en puissance à être. Et son existence, il la reçoit de Dieu. Donc il est en puissance à être, à exister, si tu veux. Et le seul qui existe par définition, c'est Dieu. Dieu n'a pas de puissance au sens où Dieu le définit. Il n'a pas de potentialité. Il est tout. Par exemple, non mais c'est très important à comprendre. À la messe, quand on vous dit Dieu est amour, ça ne veut pas dire qu'il aime. Ça c'est pas facile à percevoir. Quand Saint Jean dit Dieu est amour, il emploie bien les bons mots. Il ne dit pas Dieu vous aime à l'infini. Il dit Dieu est amour. Ça veut dire que la définition de Dieu, c'est l'amour. Il est acte pur d'aimer.
Du coup, il nous aime.
Oui, bien sûr, du coup, il nous aime. Mais il nous aime parce qu'il est amour. C'est-à-dire que c'est la définition de son être. Mmh. C'est pas un être qui aime, il est amour. Et on ne peut pas nous vraiment concevoir, parce que nous, on aime en puissance. Je suis capable d'aimer, je vais aimer. Mais lui, il n'est pas capable de rien. Enfin, s'il est capable de tout, plutôt. Enfin non, en un sens, il est capable de rien, puisqu'il est acte de tout. Donc, il aime, il est l'amour. Il est bonté. On ne dit pas que Dieu est joyeux, on dit il est joie. Il n'est pas bon, il est bonté. Il est la bonté. Il est acte pur, quoi. Alors, c'est comment dire, ça fait partie de ces choses qu'on peut essayer de concevoir, mais qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas se représenter ça, parce que il n'y a aucun être dans notre expérience quotidienne qui est acte pur. Tous les êtres qu'on observe, nous, le réel autour de nous, sont en puissance à devenir quelque chose. Autrement dit, on est limité, on est tous limités. Dieu n'est pas limité, il n'a aucune limite. Parce qu'il est acte de tout. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je dis ?
Je n'ai juste pas compris comment Aristote il avait fait le... Il avait déduit que du coup, Dieu c'était un acte pur.
Et lui, il est parti dans l'autre sens. Il ne faut jamais oublier qu'Aristote, ce n'était pas un croyant, ce n'était pas un religieux, c'était un scientifique. C'est un type qui l'observait constamment. Il a fait énormément d'observations en chimie, en biologie. Enfin, c'était un des plus grands savants de son époque. Lui, c'était un observateur. Et ce qu'il a observé, que le monde est puissance et acte. Il a constaté ça. Tout ce qu'on observe autour de nous est puissance et acte, y compris nous-mêmes. Même notre intelligence, je l'explique un jour, notre intelligence fonctionne en puissance et acte. Et il s'est dit, pourtant, les choses existent. Donc il y a un être, il y a quelque chose, il y a un subsistant fondamental qui fait que toute chose existe. Oui. Et ce subsistant fondamental, puisqu'il est partout, qu'il est toute chose, il ne peut pas être... S'il avait un potentiel, ça voudrait dire qu'une chose existe qu'il n'est pas. Je ne sais pas si tu vois le raisonnement. Imaginons que Dieu puisse devenir quelque chose. Ouais. Ça voudrait dire qu'il n'est pas encore cette chose. Ouais. Or, il est tout, puisqu'il est, c'est l'être. Donc, sa définition, c'est l'acte pur. Il ne peut pas avoir de potentiel, puisqu'il est.
Il est tout, parce que c'est l'être qui soutient toute chose.
Oui, oui. Donc, tu ne peux pas imaginer une chose qu'il n'est pas. Il est toute chose. Il est derrière, il y a la racine de toute existence, de toute chose. Donc il est nécessairement l'acte pur. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a vu, mais c'est extraordinaire parce qu'il l'a vu, si tu veux. Il a vu ça. Donc c'est pour ça qu'il dit Dieu est acte pur. Alors je vous dis les choses d'une autre manière. Tout ce que vous observez autour de vous en philosophie, ça s'appelle une substance. Hein. Baptiste est une substance, cette voiture est une substance. Bon, c'est une chose qui existe. Donc, techniquement, on appelle ça une substance. Mais une substance, elle est que ce qu'elle est. Gabriel n'est que Gabriel, il n'est pas Juliette. Juliette, elle n'est pas Pauline. Bon, la chaise n'est pas un tabouret, chaque chose est ce qu'elle est, principe d'identité. Mais Dieu, on ne peut pas dire ça de Dieu. Dieu, on ne peut pas dire qu'il est que ce qu'il est. C'est trop restrictif. Parce qu'il est toute chose. Il n'y a pas de chose qu'il n'est pas. Donc on ne peut pas dire Dieu n'est que ce qu'il est. Il n'est pas quelque chose, il est. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire sentir ça un petit peu. Hein?
Mais les consubstantiels, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être. Il est relation.
Il se suffit à lui-même.
Non, parce qu'il y a l'Esprit Saint.
Alors, ça, c'est un sacré mystère. Ça, c'est un sacré mystère.
En fait, c'est sa puissance. En gros, c'est sa puissance qui alimente son acte et son acte qui alimente. Enfin,
non, il n'a pas de puissance. Il est acte pur. Il est acte pur.
Mais sa substance est partagée, du coup.
Alors, là, tu tombes sur un truc monumental. Et tu notes le mystère, t'as qu'à noter, je me rappellerai, le mystère de la Trinité face à l'acte pur, puis je me souviens. Mais en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu est unique, il est un, mais, il est infiniment simple, il est acte pur.
Donc ça veut dire que nous, on fait partie en fait de... Parce que...
Tu fais partie de Dieu au sens où ton être, la racine de ton être, c'est Dieu. L'essence de ton existence, c'est Dieu. Si Dieu cessait d'être ou de penser à toi une seconde, tu t'évaporerais instantanément. Toute chose est portée dans l'existence, dans l'être, par la présence intime de Dieu.
Mais il y a bien un moment où Dieu a créé toute chose.
Non, il crée en continu. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Dieu crée en continu. Dieu, il n'a pas créé il y a un milliard d'années, puis il est allé planter des choux. Il crée en permanence. Il est le substrat existant, subsistant de toute chose. Il crée en continu. Il n'a pas créé, il crée tout le temps. Et si je te dis, s'il ne te crée pas à l'instant où je te parle, tous les deux, on s'évaporerait, il n'y aurait plus rien. C'est lui qui soutient la vie, quoi. Je ne sais pas comment dire ça.
Mais pourquoi il y a une bombe alors ?
On va y arriver. Mais, j'ai prévu d'en parler dans la suite de la soirée, donc ça va y arriver. Mais, donc disons pour résumer tout ça, on pourrait dire que Dieu n'est pas une substance. Moi je suis une substance, toi tu es une substance parce que tu n'es que ce que tu es. Moi je suis Alexis, je suis pas Anne, c'est pas le fauteuil. Mais Dieu, c'est pas une substance parce qu'il est toute chose.
Il est
derrière toute substance, donc il n'est pas limité à quelque chose. Il n'y a aucune chose que Dieu n'est pas, donc c'est pas une substance. Au sens où il n'est pas limité à quelque chose. On ne peut pas dire Dieu est ce qu'il est. Pour lui ça ne marche pas. Il est. Alors je l'ai déjà dit la séance d'avant ou la dernière, je ne me rappelle plus la dernière, mais Ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est la définition d'Aristote. Donc Aristote, il a perçu un être derrière l'univers comme il l'a défini comme l'acte pur. Donc il a dit, la définition de cet être, c'est qu'il est. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu se présente à Moïse, et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vraiment fascinant, voilà, quand Dieu se présente à Moïse, alors qu'il y a une tradition qui n'a rien à voir, quoi, les Juifs, ça n'a rien à voir avec les Grecs, enfin, c'est des traditions totalement différentes. Là, c'est une tradition purement religieuse. Il y avait donc Dieu se présente à Moïse, là, c'est dans la Bible, et Moïse lui demande comment tu t'appelles, il répond je suis. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il dit je suis, il dit pas je suis le créateur, il dit pas je suis bon, je suis grand, je suis ton Dieu. Non, il dit je suis. C'est sa définition. Alors il y avait le tétragramme en juif, en hébreu. Normalement, on n'a pas à prononcer. Il y avait, c'est un tétragramme en hébreu. La traduction, c'est je suis celui qui suit. Je suis. C'est ça. Ça veut dire il y avait je suis. Donc c'est la même chose qu'Aristote, quoi. Oui, vas-y, Cyril.
Parce que s'il dit qu'il est quelque chose, ça exclut qu'il soit pas quelque chose d'autre.
Oui, il ne dit pas je suis quelque chose. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne dit pas je suis quelque chose, il dit je suis.
Oui, parce que s'il dit je suis quelque chose, il exclut plus autre.
C'est exactement ça. S'il disait, à la limite, s'il disait je suis Dieu, bah, il ne serait pas ce qui n'est pas Dieu. Donc il ne dit même pas je suis Dieu, il dit je suis.
Mais il ne dit pas je suis tout.
C'est ce que c'est encore plus fort, quoi.
Sinon, il ne serait pas rien.
Oui, à la limite. Enfin, non, mais c'est
parti, vrai.
Bon, après, on est aux limites des mots. C'est oui. Mais le concept est extraordinaire. Moi, ce que je trouve complètement fascinant, c'est qu'Aristote ait découvert ça par sa pure intelligence et que Dieu soit révélé sous le même nom aux Juifs dans la tradition religieuse qui est la fondation de notre monothéisme. Je trouve que c'est quand même fascinant. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte. Ça va, tout le monde?
Ouais,
c'est bon. Juliette, ça va?
Ouais,
c'est bon. Pour les nouveaux, ça va? Ouais, à peu près. Voilà, c'est pour ça que je vous avais promis que je vous l'expliquerais un petit peu. C'est pour ça que Dieu est appelé acte pur. Alors, j'ai beaucoup hésité pour la suite de ce qu'on fait.
Mais
ouais.
Enfin, nous, on a Dieu donc est acte pur, il n'a pas de puissance. Mais dans l'acte pur, il y a quand même de la puissance, non? Enfin, parce que
qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi ton idée?
Bah, vu que Dieu est tout, qu'il est l'acte pur, on fait tous partie de cet acte, enfin on n'est pas Dieu, mais
alors faudra préciser. Ouais, alors si tu veux, il est acte pur et en même temps il y a ce mystère de la fécondité, c'est-à-dire qu'en même temps il est créateur et en même temps il est trinitaire, donc ça c'est très mystérieux, mais à la fois il est acte pur, c'est un seul Dieu unique, infiniment simple, acte pur, et en même temps c'est la fécondité, c'est la fécondité absolue, quoi. En même temps c'est comme un point, je sais pas, moi je vois ça, je suis un peu matheux, moi je vois ça comme un point, puis de ce point jaillit des courbes, tu vois, qui partent dans tous les sens, mais le point est unique, il est infiniment petit, infiniment simple, mais de ce point à une telle densité, une telle puissance de vie, je sais pas comment dire, que de cet acte pur jaillit toute la réalité. Et tout ce qu'on observe, notre vie, le monde, tout ça, ça jaillit, c'est soutenu, c'est créé en continu par cette espèce de point unique d'une intensité infinie qui est l'acte pur. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça dans ma tête, je sais pas. Donc c'est très là, enfin, faut pas. Attention, la philo, je l'ai déjà dit, c'est apprendre à s'émerveiller devant des mystères. Un vrai philosophe, c'est pas quelqu'un qui fait le tour des choses. On ne peut pas mettre des mots sur tout. On peut simplement braquer notre regard, le regard de notre intelligence sur des merveilles. Là, on est sur une merveille. On ne peut pas faire le tour de Dieu. Mais on peut à la fois dire qu'il est acte pur et dire qu'il est fécond. Et quelque part, c'est un peu contradictoire, puisque de lui jaillissent des choses, tu vois. Mais en même temps, la source de ce jaillissement, c'est l'acte pur. Il est infiniment simple. Je ne sais pas si ça t'éclaire un peu. Non ? Je
t'ai largué. Non.
Je t'ai largué ? Non ?
Non, mais...
Non, mais tu poses une question qui est très profonde, et alors, on peut la rajouter dans la liste. C'est le lien, alors c'est la question de la cause efficiente.
Parce que moi, ce que je ne comprenais pas, c'est que
cause efficiente et créateur,
seulement acte pur et seulement acte, mais puisque Dieu est tout et que Dieu, en fait, est en nous, enfin, on n'est pas Dieu, mais on a et par contre, nous, on a une puissance.
Ouais. Et cette puissance est soutenue.
Dans cet acte qui est.
Oui, cette puissance est soutenue par l'acte même de Dieu. avec les sources. Les sources. Et en même temps, nous, on est en puissance, parce que nous, on est en devenir, nous, on est limité. C'est une des dimensions de limite, c'est qu'on est dans le temps. On est dans le temps, on est dans l'espace, il y a toutes sortes de limites.
Mais c'est pas notre finalité, enfin, le fait.
Ah ben, notre finalité, c'est Dieu, c'est d'aller vers Dieu. On est aspiré vers Dieu.
Il y a Cyril.
Ouais, donc notre finalité, c'est d'avoir toute notre puissance, quoi.
Non, on sera toujours limité. Je te dis, même les anges sont en puissance. Donc on sera toujours en puissance. Mais on a. Alors, non, mais c'est marrant parce que derrière ta question, il y a presque toute ta philo. Il faudrait, pour répondre à ta question, il faudrait, un, expliquer comment Dieu est créateur, c'est-à-dire comment l'acte pur crée des êtres, et quel est le lien, le rapport entre nous, entre ton être, le mien, et puis l'acte pur qui est Dieu. Et pour parler de ça, il faut parler des quatre causes. Pas ce soir, hein, mais bon, il y a une analyse à faire pour comprendre la relation entre Dieu et la créature. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est de voir dans quelle mesure dans l'être humain, il y a une dimension qui est de niveau avec Dieu. Et il y a dans l'être humain une dimension qui est de niveau avec Dieu. C'est pour ça qu'on est créé à l'image de Dieu et qu'une table ne l'est pas. Donc d'une part, il faudra analyser le rapport entre la créature et le créateur. Ça, c'est un premier truc. Puis deuxièmement, se rendre compte que en nous, dans l'être humain, il y a quelque chose qui est au niveau de Dieu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acte pur, si tu veux faire. Bon, quand même, on est remarquable en puissance, mais il y a en nous quelque chose qui est capable de Dieu, capable de Dieu. Donc, là, capable de Dieu. C'est pour ça qu'on est à l'image de Dieu. Mais ça, on va découvrir.
Et le fait qu'on ne puisse pas saisir tout ça, c'est parce qu'on est caché de Dieu. Enfin, c'est parce que du péché. Quoi.
Non, il n'y a pas que ça. Non, t'as pas que ça. T'as aussi qu'on est limité, qu'on est. Bon, t'as le péché, t'as l'orgueil, mais t'as aussi simplement le fait que qu'on est immergé dans la matière et que notre esprit il est conditionné par notre expérience quotidienne et que c'est pas. Il faut du temps. Moi, il y a des choses que j'ai compris il y a 6 mois, que ça fait 20 ans que j'y réfléchis. Puis d'un coup, j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ça c'est génial. Donc peu à peu, on avance, quoi. On n'est pas totalement lucide, on n'est pas totalement. Esprit. Donc tu notes.
J'avais une question. Moi, je notais, c'était la question de l'efficacité.
La cause efficiente, cause efficiente et créature, tu notes. Je saurais ce que c'est. Ouais. Vas-y, Cyril.
Mon commentaire, c'était de dire que, en gros, notre finalité, entre autres, c'était de rejoindre la grande finalité, l'acte pur qui accueille sans cesse sa finalité, en fait. Ouais. Réalise sans cesse.
Complètement. C'est notre béatitude, c'est notre finalité, c'est notre souverain bien.
Et on réalise entièrement notre finalité.
Ouais. Alors, je vous donne tout de suite une piste, mais je ne creuse pas plus ce soir. On a deux capacités qui sont infinies pour nous. C'est la capacité de connaître et la capacité d'aimer. Ces deux choses-là, c'est comme dans notre substance humaine, on a deux fenêtres qui nous ouvrent sur l'infini, qui n'ont aucune limite. C'est la capacité de connaître. Rien n'est inconnaissable, l'intelligence humaine elle est infinie, et puis la capacité d'aimer. On peut toujours aimer plus, on peut toujours choisir d'aimer. Et ça, c'est ces deux capacités spirituelles qui font qu'on est capable de Dieu. Et on en reparlera plus tard, mais ça vous donne déjà une piste. Ça va ? Alors, j'ai beaucoup hésité pour continuer, voir un peu comment on avançait dans le groupe, et j'ai décidé, pour l'instant en tout cas, de continuer à cheminer autour de l'existence de Dieu. Mais pas tellement pour prouver qu'il existe, parce que je trouve que le coup de la Ferrari, de la tasse à café, du grain de sable, c'est déjà assez convaincant. Donc je pars du principe qu'on est tous plus ou moins convaincus qu'il existe, mais pour découvrir ses traces. C'est-à-dire que cet acte pur, ça rejoint ta question finalement, Gabriel. Ce Dieu acte pur, il a laissé des traces partout dans l'univers. Et donc ce qui est intéressant, c'est de scruter ce qui nous entoure, et puis de découvrir des traces de cet acte pur, et d'apprendre à connaître Dieu en exerçant notre intelligence face au réel. Donc c'est le programme que je vous propose pour aujourd'hui, puis les séances un peu qui suivent, c'est de découvrir qu'est-ce qu'on peut apprendre de Dieu en observant le réel. Puis après, on travaillera sur l'homme, sur le génie humain.
Ouais. Une petite question, juste quand il dit, juste aussi quand on entend... Enfin, qu'on dit de Dieu qu'il est le verbe de vie.
Ouais.
Est-ce que c'est parce qu'il est ou pas ?
Je préfère botter en touche ça. Tu peux noter la question, s'il vous plaît.
Le
lien entre Dieu acte pur et le verbe de Dieu.
Le verbe, c'est celui qui anime, je crois. C'est
l'expression de Dieu.
Celui qui a
Mais là, pour parler de ça, il faudrait parler du mystère de la connaissance. Ouais. Mon Dieu, si je m'embarque là-dedans.
Non, mais t'en fais pas, je
ne
veux
pas. Oui, il y a un lien, mais voilà, c'est énorme.
Non, mais je voulais au moins justement savoir s'il y avait un lien.
Oui, il y a un lien, et je pense qu'il faudrait passer par. Il faudrait parler du mystère de la connaissance. Comment est-ce qu'on connaît? Et qu'est-ce que c'est que le... Ça veut dire qu'est-ce que c'est que la parole? Ce que c'est que le langage? Qu'est-ce que c'est que la parole? Là, c'est un sujet absolument passionnant, mais on ne peut pas s'embarquer. Alors, donc voilà, le programme que je vous propose. Alors. Juste, donc, je repars un peu sur cette histoire d'existence de Dieu. Je voudrais... Il me reste encore combien de temps avant que ça me déclare?
Je sais pas, j'ai pas l'heure.
10 minutes ou...
Je suis tranquille, j'ai pas l'heure.
Il est 9h20, je parle encore 10 minutes, puis on fait un break, ça vous va?
Yes.
Est-ce que, parce que franchement, je vais un peu dans le noir, là, est-ce que ça vous va? Est-ce que ce que je raconte, ouais, ça vous intéresse?
Ouais,
c'est bon? Parce que je sais jamais... J'ai du mal à cibler, Petit témoignage terminal. Alors, mon point suivant, c'est une sorte d'introduction à la question de l'existence de Dieu. Bon. Moi, il y a pas mal d'années en arrière, j'étais très formé par un dominicain qui s'appelait Père Molinier. Puis un jour, je l'ai entendu expliquer qu'il pourrait perdre la foi en 10 minutes parce que la foi est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et si Dieu nous retire ce don, ou si on ne demande pas avec humilité, on peut perdre la foi. Mais il disait, par contre, je ne peux pas perdre la certitude que Dieu existe. Parce que ça, c'est une évidence intellectuelle, et ça, il faudrait des années pour la perdre, parce que c'est trop clair dans mon esprit. Je ne pourrais jamais, sauf si je tombe malade, quoi, intellectuellement, je ne pourrais pas perdre l'évidence que Dieu existe, et tout ce que j'ai appris sur Dieu du point de vue de l'intelligence. Par contre, je pourrais perdre la foi. Et ça m'a... Ce truc m'a
interpellé.
Oui, mais j'aime pas ce mot, ça m'a choqué.
Marqué,
oui, parce que je me suis dit, moi, j'ai pas ça. À l'époque, j'avais pas cette intelligence de Dieu. J'avais la foi, mais j'étais pas capable de dire, j'ai l'évidence raisonnable, intellectuelle, objective, scientifique, en quelque sorte, que Dieu existe et qu'il a telle et telle caractéristique. Et depuis, bon, j'ai beaucoup progressé. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire à peu près comme lui. Mais j'ai mis peut-être 20 ans, quoi. Donc, mais ça a été un des buts de ma vie intellectuelle, c'est d'arriver à ça. Donc, j'aimerais vous faire partager un peu de ça. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est parce que c'est intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire à peu près comme lui, je pourrais perdre la foi. L'évidence intellectuelle que Dieu existe et tout ce que je connais sur lui, même si je perdais la foi en Jésus et l'amour, ça resterait pour l'instant. Parce que pour moi, c'est aussi clair que l'existence de la chaise.
Oui, il faut que tu définisses ça.
Alors, ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas recommencer, mais la foi, c'est quand on est en relation d'amour avec Dieu. Hein, c'est ça, la foi. Voilà, plus j'en avais
c'est dit. La révélation.
Oui, voilà, c'est une réponse à la révélation. La foi, c'est une réponse à la révélation. Alors que l'existence de Dieu, ça n'arrive pas du tout de la foi, de la révélation, ça arrive de l'exercice de l'intelligence.
Ouais.
La preuve, c'est qu'Aristote, ce qui est extraordinaire, je vous l'ai déjà dit, c'est que toute la théologie, les fondements de la théologie catholique, c'est Aristote. Aristote, il est non seulement pas chrétien, mais même pas croyant, il vivait 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, par contre, ce qu'il a dit en observant le réel, c'est tellement vrai, tellement fin, que c'est devenu la base de toute la réflexion rationnelle dans l'Église. Parce que c'était vrai ce qu'il racontait. Et puis on a construit la théologie avec les outils qu'il a forgés. Donc évidemment, Aristote n'avait pas la foi, mais
donc,
il avait...
Il y a une grande différence entre foi et connaissance de Dieu.
Il y a une grande différence. La foi, c'est entrer en relation avec Dieu, c'est répondre à la révélation, comme tu dis, de Dieu. Hein, c'est vivre de la vie de prière, c'est être en relation avec lui, c'est dire oui, je t'écoute, j'ai confiance en toi, je t'aime. Savoir que Dieu existe, normalement, ça n'enlève pas de la foi, ça enlève de l'exercice de l'intelligence. Et il y a même derrière l'Église, vous ne savez peut-être pas, mais il y a une hérésie qui existe dans l'Église, qui est clairement identifiée, qui s'appelle le fidéisme. Le fidéisme, ça consiste à dire je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Ben, c'est une hérésie, ça s'appelle le fidéisme, c'est-à-dire que l'Église dénonce l'idée qu'on peut croire en Dieu sans y réfléchir. C'est du fidéisme. La foi réclame normalement, autant qu'on peut, une assise intellectuelle, une assise rationnelle. C'est d'ailleurs une des grandes différences avec l'islam. En islam, cette notion de construire la foi sur le rationnel, non seulement ça n'existe pas, mais c'est une hérésie. Tu peux être lapidé si tu prétends ça. Parce que ça veut dire que tu sais des choses sur Dieu que Dieu n'a pas révélées. Ça, c'est inacceptable pour un musulman. Alors que en terre catholique, enfin en terre chrétienne, mais catholique, l'intelligence, notre raison, est le premier outil qui te permet de connaître Dieu.
Oui, en terre catholique et pas chrétienne, parce que les protestants, ils disent que seul, la foi sauve.
Ouais, bon, c'est très complexe. Tu sais, des protestants, t'en as des milliers de sortes différentes. Ouais. C'est bon, là, on s'est embarqué dans une discussion, je ne sais même pas si j'arrive à vous donner. En tout cas, en terre catholique, c'est clair, le fondement de la foi, le fondement de notre connaissance de Dieu, il est d'abord de l'ordre de l'intelligence. Donc, en principe, partageable avec n'importe quel athée. On n'a pas besoin. En principe, tout ce que j'ai raconté ce soir, n'importe quel athée peut l'entendre. Théoriquement. Après, bon, c'est pas si simple, mais théoriquement. Bref. Donc, je vais profiter de ce cheminement autour de ce qu'on observe de Dieu, de ce qu'on découvre de Dieu, pour partager avec vous, déjà, essayer autant que je peux de partager avec vous cette vision. Enfin, cette vision, c'est pas une vision, j'ai mis de vision, mais cette évidence, disons. Hein. Essayer de voir ce qu'on peut connaître de lui par notre intelligence, et puis en même temps, au fil du chemin, je vais en profiter pour vous faire faire de la philo. Donc on a déjà vu une première notion qui était importante, c'était essence et existence, on a vu ça la dernière fois, puis aujourd'hui on a vu puissance et acte, c'est déjà pas mal, c'est déjà des notions qui sont assez solides. Alors un conseil, en philo, il faut toujours que vous vérifiez vous par vous-même. C'est-à-dire tout ce que je vous enseigne, tout ce que je, enfin, au nom de l'Église, hein, moi je n'ai rien inventé, mais tout ce que je vous enseigne, c'est à vous de le vérifier en vous confrontant au réel, toujours. Il ne faut jamais croire un philosophe, il faut vérifier dans la réalité que c'est vrai. En philosophie, normalement, il n'y a pas d'argument d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire, un argument d'autorité ? Hein, Aristote a dit, donc c'est vrai, même lui, il contesterait ça, c'est pas intéressant.
Oui, mais il y a quand même une vérité.
Oui, mais c'est à toi de la confronter au réel. La vérité, c'est, si tu veux,
que ce soit ta vérité, pas celle de quelqu'un d'autre,
non,
pas que la sienne.
Non, pas ta vérité, le réel.
Oui, oui.
Hein, c'est-à-dire que quand on fait de la philosophie, il ne faut jamais dire « Ah, machin a dit que, donc c'est vrai ». Non, c'est le réel est comme ça, donc c'est vrai. C'est-à-dire la mesure de la vérité en philo, c'est toujours le réel. Est-ce que ce que je dis est conforme au réel ? Est-ce que ce que je pense est conforme au réel ? Après... suivre des génies comme Aristote, c'est extrêmement précieux parce qu'ils ont ouvert la voie, c'est-à-dire qu'ils nous aident à voir des choses qu'on ne voit pas tout seul. Mais le but, c'est qu'on voit nous. C'est pas qu'on les croit, c'est qu'on voit nous.
Si l'argument d'Aristote s'appuie sur le réel, son argument, il est vrai, enfin, entre guillemets.
Oui, il est vrai, mais à toi de le vérifier, à toi de faire la même démarche. Et moi, il y a des phrases qu'il a dites, ou saint Thomas d'Aquin, il y a certaines phrases qu'il a dites, je te dis, il y en a, j'ai compris il y a quelques mois. Oui. Tout d'un coup, je me dis, ah oui, mais c'est ça qu'il voulait dire. Parce que je me suis connecté au réel, j'ai compris de quoi il parlait. Alors jusque-là, j'écoutais. Alors, en même temps, il faut essayer d'être souple parce que c'est des génies, donc c'est bien de les écouter pour apprendre. Mais il faut arriver à un moment à ce qu'on voit, nous, que nous-mêmes, on soit convaincus par notre expérience, en fait. Donc la philo, c'est cette démarche-là. Hein. Voilà, donc on avance un petit peu. Alors. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Oui, je terminerai par une phrase qui va beaucoup vous surprendre, mais je vais essayer de vous montrer ce soir. La philosophie, c'est la seule science qui vous donne des vraies certitudes. Si vous ne croyez pas encore, marquez-le, parce que je vais essayer de vous le faire découvrir. Vous n'aurez pas de certitude par les maths, ou par la physique, ou par la chimie. Pourtant, moi, j'en connais rien. Hein. Ça ne vous donne aucune certitude, ces sciences-là. Alors que la philosophie, de toutes les sciences que je connais, c'est la seule qui donne des vraies certitudes, qui sont vérifiables par vous. La philo vous donne des certitudes que vous pouvez vérifier.
Non, c'est pas la philo qui donne. Enfin, elle nous aide à trouver.
Elle te donne des certitudes.
C'est pas la philo. Enfin, c'est notre expérience au réel.
Exact. Mais en même temps, la philo, c'est une manière d'exprimer cette expérience. Si tu
veux. Qu'est-ce que ça veut dire, philo?
Bah, si tu veux, moi, je connais quand même beaucoup, beaucoup de choses en physique.
Mais
en chimie,
qu'est-ce que ça veut dire, le mot?
L'étymologie de l'amour.
Ah, philosophie, alors ça veut dire l'amour de la sagesse. Un philosophe, c'est un amoureux de la sagesse. C'est quelqu'un qui.
Ouais,
c'est
ça. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse.
La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Ouais. C'est quelqu'un qui aime la sagesse, qui est fasciné quoi, par une, quelque chose qui est dans la réalité, qui est sous-jacent au réel. Tu vois, la sagesse, c'est dur à définir la sagesse. Hein, c'est...
La sagesse, c'est de prendre le recul, je pense, et de voir. En fait, l'ensemble des sciences.
Génial. Oui. Génial comme définition. Ouais. Non, super. Moi, j'allais prendre une image. C'est si tu veux, si tu as une sphère, puis, comment dire, si tu parcours une sphère, tu vois, la Terre, disons, tu parcours la Terre, tu apprends plein de choses. Un point de vue de sagesse, ce serait en quelque sorte quand tu es au centre, tu es au centre de la sphère, puis tu vois tout d'un coup. Tu vois l'ensemble d'un coup. Quoi. C'est une vue de sagesse. donc le philosophe. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression parfois de vous dire des choses compliquées, mais la philosophie, c'est vraiment une initiation à la simplicité et à l'émerveillement. Normalement, quand on progresse en philosophie, on devient de plus en plus simple. Nos idées sont de plus en plus simples parce qu'on est simplement percuté par des réalités toutes simples qui sont merveilleuses. Donc la vraie philo, elle nous simplifie de plus en plus. Ce qui est difficile dans la vraie philo, c'est de se simplifier la conscience. C'est d'être de plus en plus simple. Moi, ça, je peux vraiment témoigner. Moi, c'est ce que je vis au fil des années. Il y a encore des trucs où je ne comprends rien, puis d'autres où c'est devenu très simple, très, très limpide. Alors qu'il y a 10 ans, je ne comprenais pas. Donc,
donc en fait, Dieu est extrêmement simple.
C'est là. C'est une des premières. Tu sais, au début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il parle des attributs de Dieu. Et le premier attribut de Dieu, c'est la simplicité. C'est la première chose qu'on peut dire de Dieu, il est simple, extrêmement simple. Et c'est ça notre problème, c'est qu'il est beaucoup trop simple. Il est acte pur, quoi. C'est notre manière de
dire. Ou c'est nous qui sommes compliqués.
Ah oui, nous on est très compliqués. Non, c'est clair, hein.
Donc le mystère de la sagesse se résout par la simplicité, quelqu'un.
Oui. Ah oui, c'est sûr. Un bon philosophe, c'est quelqu'un qui se simplifie. Il n'y a pas plus compliqué que l'erreur, d'ailleurs. Quand tu dis des textes... non, mais je voudrais que nous finissions. Alors, avançons un petit peu. Alors, j'essaierai de vous faire expérimenter ce soir une vérité. Vous repartirez en étant certain que c'est vrai. Et vous aurez besoin de personne d'autre que vous. Et ce sera une vérité philosophique. Je vais essayer de vous la donner ce soir. Ce sera une petite expérience. Vous constaterez que c'est une chose. Vous serez certain que c'est vrai. Vous aurez besoin d'aucun instrument, d'aucune preuve mathématique. Et vous repartirez avec une certitude. Je vais essayer de vous le faire ce soir si on y arrive. Bon, revenons à... Alors, quand on observe le réel et qu'on cherche Dieu, il y a deux sources qui sont extraordinaires. La première source, c'est la réalité. Hein, la chaise, les fleurs, les animaux, tout ça. Ça, c'est une première source, on l'explorera petit à petit. Puis il y a une deuxième source, c'est, j'appelle ça, le mystère de l'observateur. C'est-à-dire, c'est le mystère de l'humain. C'est traditionnel dans l'Église, il y a deux pôles qui révèlent Dieu, c'est le monde, tout ce qu'on observe du monde, et puis nous-mêmes. L'observateur. On a une capacité, c'est ce que j'essaie de dire au début, on a une capacité d'intelligence et de connaissance et d'observation qui est en fait miraculeuse. Quand on y réfléchit, c'est miraculeux. Donc c'est à la fois, disons, l'être humain et le réel, ce sont les deux sources qui nous parlent de Dieu. Alors, au fur et à mesure de mon cheminement, vous repérerez, j'ai construit un truc où je prends toujours quatre étapes. Enfin, il y aura toujours quatre points. Chaque fois que je parlerai de Dieu ou d'un point particulier, il y aura toujours quatre points qu'on balayera ensemble. Je vous les citerai. Le premier point, ce sera toujours un peu de philo. Enfin, toujours un peu de philo, quelques concepts de base en philo, comme on a fait là, essence, existence, tout ça, c'est de la philo. Le deuxième point, c'est qu'on regardera toujours un peu le génie humain. Qu'est-ce qu'il y a de génial dans l'homme sur le point qu'on est en train d'étudier? Le premier point, on fera toujours un peu de philo. Deuxième point, le génie humain. Troisième point, je parlerai toujours de la science. Je donnerai toujours un peu de science, la physique, de la chimie, des maths, enfin, je ferai toujours une connexion avec la science. Puis le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre sur Dieu. Et on pourrait partir du tapis. Sur le tapis, on pourrait en parler en philo. Honnêtement, je pourrais parler plus d'une heure du tapis. J'ai pas mal parlé d'ailleurs déjà ce soir du tapis. En philo. Deuxièmement, le génie humain. Hein, comment ça se fait qu'un homme ou une femme est assez intelligente pour en parler. Troisièmement, que nous dit la science du tapis, hein, qu'est-ce qu'on apprend en science? C'est infini, c'est le mystère d'un tapis comme ça, c'est un mystère absolu. Il n'y a pas un savant au monde qui a une idée de comment c'est fait. C'est inimaginable. La complexité d'un tapis, c'est... Non mais sérieusement, c'est à tout le monde dément. Il n'y a pas un savant au monde qui a une idée réelle de ce qu'on a sous les pieds. Là. C'est que des mystères. Et puis le dernier truc, c'est qu'est-ce que ce tapis nous dit de Dieu? Il nous dit plein de choses en fait, si on y réfléchit. Ça va?
Ouais.
Juste,
bon, je termine.
Hein? J'ai le génie humain, Dieu.
Ouais, les quatre points que je balayerai toujours dans nos réflexions, c'est un, la philo, donc quelques concepts de philo. Deux, le génie humain, essayer de dire quelque chose sur notre intelligence, sur notre volonté, sur ce qu'on est. Troisièmement, un peu de science, on fera toujours un peu de science, un peu de physique, un peu de chimie, un peu de maths, enfin, j'en sais rien. La dernière fois, on a fait un peu de mécanique quantique, enfin. On va essayer. Bon. Et puis, quatrième point, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Qu'est-ce que mes lunettes me disent de Dieu? Elles me disent quelque chose, en fait. Bon,
Alexis.
Ouais.
Moi j'ai une petite question. Tout à l'heure tu disais que en fait Dieu a laissé dans notre réalité il y a plein de signes de l'acte pur.
Ouais, partout.
Enfin, Dieu, oui, tout. Enfin, il y en a partout où tout est signe de. Enfin,
tout est signe.
Mais j'avais l'impression que tu disais que qu'il y avait des choses plus particulières. Qui nous permettait de comprendre Dieu.
Enfin, bah, si tu veux, je pense.
Où l'acte se révélait plus. Où,
ouais.
Où,
où, bah, prenons un exemple. Prenons un exemple, si tu veux. Moi, comme je disais la dernière fois, la simple existence d'un grain de sable, pour moi, est une preuve absolue que Dieu existe. Un simple grain de sable. Mais j'apprends plus de Dieu en t'écoutant ou en regardant une tulipe qu'en regardant un grain de sable. Parce que tu révèles, toi, par ton être, tes questions, ta capacité d'aimer, de réfléchir. De déployer tout ce que tu es capable de faire, tu révèles plus de Dieu qu'un grain de sable. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais non. Ah oui, ah, ok.
Tu vois, quand, si j'observe une fleur, elle me parle plus, elle me révèle plus de richesse de Dieu qu'un grain de sable. Parce qu'il y a le mystère de la vie, il y a la beauté, il y a les couleurs, il y a l'harmonie, enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc chaque nature, dans ce qu'on observe, au fond, chaque nature dit quelque chose de Dieu, mais il y a des natures qui sont plus riches que d'autres. Un ange, il va dire plus de choses que Dieu, que de Dieu qu'un grain de sable. Après, l'ange, tu ne le vois pas d'un autre côté, donc c'est compliqué. Mais... Ça va ? Ben, on peut s'arrêter là, c'est pas mal, on a fait un truc à peu près cohérent, là. Enfin, pour la première partie. Est-ce que ça va ?
Ouais.
Il y a des questions ? Non ? C'est bon ? Alors, break, hein, on va se prendre de la crêpe.
Quand tu dis que la philo, c'est la science qui donne des certitudes, tu parles de quelles certitudes?
Bah, je vais essayer de te donner un exemple tout à l'heure. Ça marche?
Oui, parce que non, je comprends qu'il y a certaines certitudes qui sont approchables par la science, autre que la philosophie. Mais je ne conçois pas que la philosophie soit la seule science qui soit capable de donner
de la même chose que tu sais par la science. Dis-moi une chose que tu sais par la science.
Que je suis sûr.
Ouais. Que la science t'a appris de manière certaine. La science aussi.
Bah, que si je lâche un truc, il va tout le monde.
Ouais, non. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est de la science, hein, Jeunesse. La date observe juste le réel.
Ben oui, mais en même temps, la science est capable de le démontrer aussi.
Alors,
enfin, de dire pourquoi ça tombe.
Non, mais c'est vachement intéressant comme exemple. La science est capable de modéliser, d'accord? J'imagine que tu vas me parler de Newton, la théorie de la gravitation.
Oui.
Ouais, tu sais que c'est totalement faux.
Pourquoi?
Parce que c'est totalement démonté.
Archi faux.
Non, mais c'est un exemple extrêmement intéressant. Il me dit, j'ai des certitudes grâce à la science. Par exemple, je sais que ce... Non, c'est vraiment intéressant. Bon. Il me dit, on fait ça, puis on va manger. Oh. Non, on va manger, on fait ça après. On prend le crêpe.
On prend
le crêpe.
Non,
on va manger une crêpe. Mais on prend le crêpe. C'est vraiment intéressant.